Bonsoir à tout le peuple vert. Le gravier dans la machine est enlevé. Les verts ont enfin marqué en première période à Geoffroy Guichard cette saison. Et pour la première fois depuis un an, pas suffisant seulement pour battre Monaco, score final un but partout. Mais le club de la principauté a peut-être grillé un joker ce week-end. Nous y reviendrons dans le débrief. Pour Saint-Etienne, en revanche, ce match nul est une performance qui peut donner des ailes. Avant le déplacement à Kabbalah en Azerbaïdjan, jeudi soir, c'est la phase retour des poules d'Europa League qui démarre. Christophe Galtier va sans doute devoir faire tourner son effectif avec nous ce soir pour en parler. Un autre entraîneur stéphanois, il vient d'emmener le club de Côte-Chaude au 7ème tour de la Coupe de France. Shérif Bounoir est avec nous sur RVR depuis Saint-Etienne. Bonsoir Shérif.
Bonsoir.
Nous reviendrons plus largement sur ce parcours honorable dans l'Expresso en milieu d'émission. L'autre rubrique de cette mi-temps verte, l'Actu Ligue 1, sera consacrée ce lundi à l'Olympique Lyonnais victorieux à Toulouse samedi 2-1. Mais d'abord, nous allons revenir dans le sud de la Loire pour débriefer l'affiche de la 11ème journée Saint-Etienne-Monaco, un match où un certain basque bondissant Stéphane Ruffier a brillé. Les supporters peuvent être contents et peuvent féliciter Stéphane Ruffier. Il est sans conteste le grand homme du match de samedi soir face à l'AS Monaco. Le Basque a bâillonné les attaquants monégasques au prix de ses interventions toujours propres et efficaces. 2 arrêts, 6 ballons détournés face à son ancienne équipe. A-t-il sorti le match de sa vie, Stéphane Ruffier? Shérif Bounoir.
Oui, on l'a vu sur quelques arrêts réflexes, toujours présent pour son équipe et toujours aussi solide derrière sa défense. Donc bien.
Il est abandonné seulement par sa défense sur le coup franc de la 5ème minute qui amène le but de Glick. Mais derrière, il réussit le match parfait, aucune erreur. Il est décisif, comme l'aiment les supporters, les observateurs et nous, les journalistes. Il a retrouvé son niveau, son véritable niveau, Stéphane Ruffier.
Oh oui. Et puis je pense qu'il n'a pas tant perdu que ça parce qu'il a encore cette présence qu'on lui connaît. Il a encore ce côté mental qu'on lui connaît et qu'on aime bien à Saint-Etienne en tout cas.
Une légende de l'ASS est sous le charme, il s'agit de Robert Herbin, notre Stéphane Ruffier, il l'appelle comme ça dans les colonnes du Progrès, a bien colmaté les brèches en fin de match. C'est le gardien le plus régulier de notre championnat, il est motivé et concentré d'un bout à l'autre du match. L'ancien joueur, entraîneur et président des Verts a lâché sa plume, on peut le dire carrément dans les colonnes du journal. Ruffier est-il aujourd'hui le gardien le plus régulier du championnat de France? Est-ce que Robert Herbin a raison?
Oui, je pense, un des très bons du championnat de France. Régulier, après, je pense qu'il y a des experts qui pourront le déterminer au travers de tous les matchs, mais il fait quand même partie des meilleurs gardiens, et j'en suis convaincu.
Alors Christophe Galtier n'a pas été insensible à la prestation de son gardien en conférence de presse, mais ce qu'il retient surtout, c'est la fébrilité de sa défense, on va l'écouter.
Elle a beaucoup d'atouts offensifs, il a fallu un bon Stéphane dans notre but pour éviter de perdre. Ensuite, l'entame du match, on prend un but rapidement sur coup de pied arrêté, ce qui est dommageable. On a su égaliser assez rapidement, heureusement, mais cette équipe nous a posé beaucoup de problèmes, que ce soit dans sa capacité à nous empêcher de jouer, mais aussi, surtout, à sa capacité à vous sanctionner dès que vous avez une perte de balle.
Et on l'a vu à plusieurs reprises d'ailleurs, pour souligner les propos de Christophe Galtier, les monégasques ont été tranchants à l'image de Kylian Mbappé-Lotin, ce jeune espoir du football français, on va en reparler. Qu'est-ce qu'il a manqué aux Verts, concrètement?
Sans doute. Moi j'ai trouvé personnellement que Monaco était quand même très affûté. Sa place dans le championnat, Monaco la mérite. Je pense qu'il faut pas négliger aussi la bonne prestation des Verts, qui a été quand même hyper intéressante, même si il y a eu peut-être un manque de rigueur à certains moments sur le plan défensif, ce qui a fait que Stéphane Ruffier a compensé. Mais ça reste quand même une belle prestation, et puis le résultat est là, quoi. Ça reste quand même le second du championnat de France, donc c'est pas négligeable.
Alors, mine de rien, malgré son travail phénoménal, Stéphane Ruffier, il peut pas sauver les Verts à chaque fois tout seul comme ça. Il y a une dépendance qui se crée, on a l'impression, à chaque fois.
Oui, sans doute, mais après, je pense que ça va être le rôle un peu du coach et puis des défenseurs de gagner encore plus en rigueur, et notamment face à des matchs et des équipes comme l'AS Monaco, où il suffit d'un petit moment et d'un manque de rigueur pour payer cash, quoi. Donc être solide dans un championnat, et ben, c'est aussi aller chercher des points face à une équipe comme Monaco.
Ses défenseurs n'ont pas toujours été à la fête. Il a souvent colmaté les brèches, comme le dit Robert Herbin très justement dans les colonnes du Progrès. Léo Lacroix n'a pas été en réussite. Le Suisse a beau avoir des statistiques honorables, avec notamment un taux de passes réussies assez élevé, 88%. Il a commis des erreurs qui auraient pu coûter très cher samedi.
Oui, certainement. Mais voilà, je crois que de toute façon, le niveau veut, à chaque fois qu'on joue une équipe de tête, le niveau veut... on fasse le moins d'erreurs possible. À chaque fois qu'on va faire une erreur, ça va être délicat. C'est ce qui fait peut-être que, ben, à un moment, on a besoin d'un gardien comme Ruffier, quoi. Et c'est d'autant plus intéressant que, ben, il est présent et puis il est en réussite pour le moment. Donc il faut en profiter.
Lacroix n'a pas été tout le temps en réussite, mais à côté, Loïc Perrin, lui, a été en réussite. Il a souvent fait le ménage, il a gommé certaines ratures de la défense. On sent que le capitaine stéphanois revient bien, lui aussi, comme Stéphane Ruffier d'ailleurs.
Oui, de toute façon, je crois qu'il reste quand même exemplaire à la AS Saint-Etienne. Il fait très peu d'erreurs, il a une grosse présence derrière. C'est un super recyclage pour un joueur de milieu de terrain de se retrouver défenseur d'axe. Je crois qu'on le retrouve en plus, en grande forme, et ça fait toujours plaisir. J'espère que ça durera, parce que on a l'habitude de le voir un petit peu de temps en temps avec des blessures. On espère que pour la AS Saint-Etienne, ce sera pas le cas cette année.
Ben, il a été blessé quelques semaines, mais il revient très bien. Il revient assez vite à son meilleur niveau.
Moi, je croise les doigts pour lui, pourvu que ça dure et qu'il n'y ait plus de soucis derrière.
Justement, est-ce que c'est l'habitude, j'ai envie de dire, d'avoir des petits pépins comme ça à l'automne pour Loïc Perrin, qui lui permet de récupérer plus vite parce qu'il gère mieux?
Je pense qu'il a sûrement cette habitude du fait de ses blessures assez fréquentes là, sur chaque saison. En même temps, il n'a pas eu de si gros pépins que ça, donc il est capable de gérer sa saison, il a la maturité pour, en tout cas.
Alors, c'est lui, Loïc Perrin, comme un symbole, qui a égalisé après le quart d'heure de jeu et qui brise cette série, cette spirale négative d'un an sans marquer en première période à Geoffroy Guichard. 54 semaines, très précisément, pour l'AS Saint-Etienne. Ça peut débloquer des choses?
Oui, ça peut être super intéressant. Intéressant pour la confiance, montrer un petit peu que l'équipe est capable de marquer, autant à la fin d'un match qu'en début de match, de réagir parce que perdre 1-0 et revenir très rapidement derrière, donc c'est quand même hyper important pour la confiance. C'est peut-être aussi la raison qui a mené à ce résultat, qui est à mon avis positif aussi pour la suite du championnat.
Il marque un vrai but d'attaquant, un but sur un coup franc de Jordan Vertu, qui est en train de devenir au passage le véritable taulier au milieu de terrain. Un but d'attaquant, vraiment une tête magnifique de Loïc Perrin.
Oui, en plus sur une défense super bien en place, il vient, il coupe devant un adversaire direct, un but de numéro 9, comme on les aime, quoi.
Alors, et pourtant, c'est un défenseur central qui marque, et comme souvent cette saison, les attaquants ont du mal à se mettre en évidence face au but. Quand on regarde la défense centrale de Monaco, il y a de la taille. Glick, 1m90, Jemerson, 1m84, mais c'est pas non plus des monstres. Pourtant, les Stéphanois, eux, ont aussi de la taille, à l'image de Robert Berić. On ne peut pas donc dire que les Stéphanois ont peur d'aller au Mastoc, sinon ce serait très grave de dire ça. C'est un problème d'automatisme. C'est quoi le problème en attaque?
Je sais pas, je pense que Galtier doit être le principal intéressé et va devoir... sans doute pouvoir le résoudre. Après, marquer sur un coup de pied arrêté, en tout cas, moi, je peux juste dire que pour Perrin, ça ne l'a pas trop gêné, parce qu'il se met dans l'interception, passe devant le défenseur, et dans le timing, il est parfait, quoi. Donc, est-ce que c'est un problème de taille, ou c'est un problème plutôt de timing, de perception et de sensation? En tout cas, Perrin a prouvé que c'était aussi c'était surtout un problème de sensation et de timing, quoi. Et puis peut-être de détermination aussi.
À Monaco, en tout cas, les attaquants, eux, ne sont pas en déficit de détermination, comme on peut le suggérer. 30 buts ont été inscrits depuis le début de la saison, 14 seulement du côté de Saint-Etienne. Samedi, on a vu ce que ça faisait, hein, au niveau du jeu, une telle différence. Pour autant, les Verts ont su tenir le nul jusqu'au bout grâce à un certain Stéphane Ruffier. Et l'ASM, en concédant le nul, Geoffroy Guichard a peut-être grillé un joker. Trestia, 6 cadrés, la SM a affiché tout son potentiel offensif samedi à Geoffroy Guichard, ce qui explique aussi pourquoi Stéphane Ruffier a brillé. Il y a un joueur en particulier qui s'est illustré, on en parlait tout à l'heure, c'est Kylian Mbappé-Lautin. 3 frappes, 2 cadrés, un culot monstrueux, il n'a que 19 ans. Ce joueur, champion d'Europe avec les U19 depuis cet été, il est en train de devenir certainement, Chérif Beaunoir, l'un des espoirs du football français.
Excellent, s'il veut être transféré à Cocho, je suis preneur, hein, il n'y a pas de souci. Ah oui, excellent pour un jeune joueur. Les enchaînements, la vitesse dont, avec laquelle il enchaîne, les qualités techniques qu'il a, et puis je crois que c'est ce qui est intéressant chez les jeunes, c'est cet enthousiasme, quoi. C'est l'envie de peut-être de tout manger, et puis peut-être ben, d'aller chercher des places de plus en plus haut, quoi. Mais excellent, j'adore.
Quand on voit le potentiel offensif de l'AS Monaco, Lemar, Germain, Falcao qui revient de blessure, Mbappé, Carillo, Bernardo Silva, ça fait frémir, ça nous dresse les poils sur les bras. On se dit que c'est difficile quand même de rivaliser, et pourtant, c'est ce qu'a réussi l'ASS samedi. Ce match nul est-il un exploit pour l'ASS ?
Personnellement, oui, c'est quand même intéressant. Justement, face à ce potentiel offensif, de prendre un but sur coup de pied arrêté, c'est pas rien, c'est pas rien du tout. Apprendre à réagir tout de suite derrière, c'est encore mieux. Je pense qu'ils ont, ils ont quand même démontré une certaine rigueur défensive, même s'il y a eu quelques erreurs individuelles, ils ont quand même démontré cette rigueur défensive qui fait que ben, face à une équipe qui fait partie des leaders du championnat de France, ils ont su tenir quand même la dragée haute. C'est du positif.
Henri Cévé, lui, ne parle pas d'exploit, mais il se contente volontiers de ce point obtenu face au Monégasque. On va l'écouter, l'ancien Bordelais.
C'est vraiment un très très bon point pris. Et Monaco est une super belle équipe, on a pu le voir aujourd'hui. Techniquement, c'est vraiment au point, donc c'était vraiment compliqué. Mais l'important, c'est qu'on a su marquer très vite aussi, donc pour nous remettre dans le match. Et ouais, c'est un bon point pris.
Et pourtant, on peut se dire que les Verts auraient peut-être pu obtenir mieux 2 points de plus. Peut-être à la 81e minute, il y a un petit fait de jeu qu'on peut relever. Jamerson accroche Nolan Roux à 35 mètres du but du gardien monégasque. Il annihile une occasion potentielle de but pour l'ancien Brestois. Est-ce que Jamerson doit être exclu? Gardien monégasque qui est Daniel Subasic au passage.
Ouais, difficile de juger à la place de l'arbitre. Après, de loin, oui, peut-être, mais difficile de se mettre à la place de l'arbitre et de juger à sa place. Mais bon, personnellement, oui.
Est-ce que ça aurait fondamentalement changé la donne ?
Non, je pense pas. Je pense pas que ça change beaucoup le jeu et que ça change grand-chose.
Outre ce petit litige sur lequel on peut vraiment peut-être revenir, l'attaque forésienne n'a, elle, pas existé. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Elle est un peu pataude, cette attaque stéphanoise. Outre le problème d'automatisme qu'on pouvait évoquer, dénoncer, on dirait que certains ne sont pas vraiment à leur niveau. Beric a été isolé contre Monaco, 0 frappe pour le Slovène. Monet Paquet, lui, il bouge beaucoup, c'est son mérite. Le problème, c'est qu'il ne frappe pas. 0 frappe également pour le Franco-Rwandais. Tanane, lui, il n'est carrément pas au niveau. Il est encore dans les stats à la rue, complètement. 54% de passes réussies pour Oussama Tanane. Il y a un vrai problème.
Je pense que peut-être que c'était une volonté délibérée d'être moins dans une dynamique offensive. Je pense que c'est grisant aussi pour les joueurs, pour les joueurs qui ont plus un potentiel offensif à la Saint-Étienne. Si c'était un choix, c'était peut-être pas inintéressant. Je pense qu'il y avait aussi, peut-être aussi prendre des points contre une équipe qui était justement sur un potentiel offensif hyper intéressant. Donc si c'était un choix, donc on peut dire que les joueurs se sont un petit peu sacrifiés. Et avec de l'abnégation et puis passer au-delà de leur frustration et puis de l'envie peut-être de cet aspect offensif pour peut-être plus défendre et avoir un peu plus de situations de contre et créer sans doute et ben peut-être l'objectif c'était ces deux points ce point et peut-être pas d'aller chercher forcément un 3 points quoi. Donc si c'était le cas, et ben, c'est bien joué. Et puis peut-être qu'ils pourront se libérer sur d'autres matchs.
Alors par contre, enfin, quand on peut, on va s'attarder un petit peu sur ce problème d'attaque avant de reparler de Monaco, mais on sait que Nolan Roux et Robert Berich ont souvent été complémentaires et on y revient souvent dans cette émission. Quand Nolan Roux joue sur le côté droit et que Robert Berich ou Alexander Söderlund d'ailleurs joue dans l'axe, ça peut créer des brèches, ça peut ouvrir des portes dans les défenses adverses. Et malheureusement, Christophe Galtier ne tente plus trop ça ces derniers temps, c'est dommage.
Peut-être, après, difficile de rentrer dans ses choix, mais si ça peut créer des brèches sans doute face à certaines équipes, peut-être pas face à d'autres. Donc le choix était peut-être justement d'isoler peut-être un attaquant et puis d'utiliser peut-être différemment d'autres joueurs sur le côté et puis peut-être utiliser plus les largeurs de terrain que l'intérieur de terrain quoi.
Alors pour revenir à Monaco, les hommes de Jardim ont manqué de réalisme. Eux, on ne peut pas dire que leurs attaquants n'ont pas existé. Eux, en revanche, ils n'ont pas été efficaces. En même temps, ils ont buté sur un grand Stéphane Ruffier. Mais quand on voit que Nice a conforté sa place de leader en étriant Nantes 4-1 avec un but de Balotelli, peut-on dire que le club de la Principauté a grillé un joker samedi dans la course au titre ?
Quelque part oui, parce qu'ils ont manqué d'efficacité. On les a vus un petit peu là sur leur tir. Je crois qu'ils avaient 14 tirs, c'est ça ?
Oui.
Pas très loin. Sur les tirs qu'ils ont eus, je crois qu'il y en a 7 ou 9 cadrés.
13 tirs, 6 cadrés.
Donc bon, c'est et sur les tirs cadrés, bon, Ruffier était présent sur quelques-uns. Donc on sent quand même qu'il y a eu ce manque d'efficacité. Et puis peut-être que justement, s'ils ont autant frappé au but, c'est que quelque part... ils n'ont pas créé autant de déséquilibre qu'ils auraient souhaité. C'est là où ils auraient pu être sans doute plus efficaces. C'est peut-être que la défense stéphanoise a fait en sorte qu'il y ait le moins possible de déséquilibre et peut-être plus de tirs au but où c'est sans doute moins dangereux, dans des situations moins dangereuses.
Comment cette équipe de Monaco peut-elle aller chercher le leader niçois en lâchant comme ça des points au passage alors qu'on sait qu'elle est capable de mettre à mal les plans de ses adversaires? On l'a vu contre Metz par exemple, où Monaco a affirmé sa supériorité face à un promu en infligeant une défaite 7-0 au Lorrain.
Sans doute qu'ils ont, ils ont sans doute manqué d'efficacité sur ce match, ou peut-être qu'on est maintenant sur des périodes où... ils sont tellement observés que les défenses adverses et puis les coachs adverses savent sans doute manier un petit peu plus leur potentiel offensif. Donc à eux de peut-être de s'adapter et de voir d'autres manières plus peut-être qui seront moins individuelles pour pouvoir être plus efficaces quoi.
Des joueurs par exemple comme Kylian Mbappé ou comme Thomas Lemar ou même Cario qui sont très jeunes, le manque d'expérience de ces joueurs mine de rien, est-ce que c'est ça aussi qui fait pêcher Monaco?
Sans doute, le manque d'expérience joue toujours, surtout face à une défense qui tient solide, qui veut être solide et résister face à eux. Mais bon, quelque part aussi leur enthousiasme que ça va finir par craquer quoi. Et je pense qu'avec le temps là, à la suite du championnat, ils resteront des joueurs efficaces.
À Côte-Chaude, ce sont d'autres soucis qui guettent Shérif Bounoir. Il est bien placé pour le savoir. Son équipe de seniors est qualifiée pour le 7e tour de la Coupe de France. C'est l'un des 3 derniers clubs nigériens en lice dans cette compétition mythique. Nous allons en parler dans l'Expresso tout de suite. Il est 20h20 sur RVR. Shérif Bounoir, depuis quand entraînez-vous Côte-Chaude?
Alors c'est ma 3e saison, j'entame ma 3e saison à Côte-Chaude avec les seniors.
Vous évoluez en honneur cette saison, pour nos auditeurs il s'agit de la 6e division nationale, vous êtes 7e au classement après 6 journées à 9 points du leader et Chirol. Quelles sont vos ambitions cette saison?
Les ambitions restent très, très humbles, c'est un maintien, on vient de monter cette saison, donc c'est un maintien, l'idéal ça serait un maintien le plus rapide possible. Et en prenant un maximum de points là sur les matchs, sur les 5, 6 ou 7 matchs qui arrivent, pour pas avoir à trop souffrir sur la fin de saison où c'est un petit peu la course aux points pour tout le monde. Voilà, donc un maintien, ça serait une très très belle saison.
Dans ce classement, vous faites un peu figure d'ovni, si j'ose dire, hein, puisque votre équipe n'a marqué que 9 buts. Est-ce que déjà, première question, c'est lié au fait que vous soyez promu et que vos joueurs manquent un petit peu de repères ?
Sans doute. Et après, je pense que là, on a peut-être besoin d'un peu plus de stabilité. On a pas mal changé les joueurs sur les 6 matchs qu'on a joués. Beaucoup de joueurs ont changé. Les joueurs nous ont rejoints, on a eu une préparation assez délicate, même si elle a été longue. Donc on attend un peu de se mettre un petit peu dans un cycle où on sera sur plusieurs matchs avec une stabilité et puis le temps de se poser et on verra un peu ce que ça va donner ensuite.
Ce classement, mine de rien, il est un peu faussé par votre week-end un peu étrange. Votre match contre le club de foot de Chambéry a été arrêté en plein milieu. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Le brouillard est pas mal tombé. On est rentré à la mi-temps, ressorti, et l'arbitre a décidé d'attendre 45 minutes, voir si le brouillard allait peut-être disparaître. Malheureusement, au bout de 25 minutes, le brouillard s'épaississait de plus en plus, au bout du temps choisi par l'arbitre, le match a été carrément arrêté.
Le match était à quelle heure pour qu'on ait des repères ? 18h, ouais. 18 donc, heures. D'accord, ouais.
Ça... Alors qu'on avait un très beau soleil toute la journée.
Mais ouais. Mais avec la tombée du soir, ça n'aide pas, j'imagine ?
Non, pas du tout.
Et du coup, ce match va être reporté ? Il y a une date déjà qui a été fixée ?
Non, on ne sait toujours pas la date. Bon, après, il y a les dates prévues là sur... sur la rentrée, après la trêve. Donc on sera fixé assez rapidement.
Sur la première moitié du classement, vous êtes à l'heure où l'on parle la plus mauvaise attaque, avec seulement 9 buts. Comment vous comptez y remédier ?
En travaillant, comme tout le monde. Je crois qu'on va se remettre au travail et puis continuer à bien bosser là sur comme on le fait depuis le début de saison, avec la confiance, l'humilité aussi sur ce championnat qui reste pas simple, le niveau nord au niveau Rhône-Alpes est quand même intéressant, avec des joueurs d'un niveau super intéressant, notamment sur les clubs qu'on trouve en tête. Donc on espère y remédier en continuant à travailler avec toute l'humilité que l'on nous connaît.
De l'efficacité et de la présence offensive, vous en aurez besoin pour affronter Marseille-Consola lors du 7e tour de la Coupe de France. C'est le 13 novembre à 14h30 au stade Auguste Durie, si je ne m'abuse. Coach Aude est l'un des 3 derniers clubs ligériens encore en lice dans cette compétition. Vous mesurez l'importance de cette rencontre ?
Quand on arrive, quand on est club amateur, qu'on est en Coupe de France, on a au moins comme objectif de se dire il serait sympa d'arriver jusqu'au 7e tour, de jouer une Ligue 2 pour terminer en beauté ou passer en beauté, on ne sait jamais. On joue contre un club de national, donc c'est quand même pas rien. Sur les 3 clubs qualifiés, on a, je crois, le plus gros tirage. Donc à nous de faire en sorte que ce soit une fête. Ce qui est plus intéressant, c'est que sur l'ensemble des tours de Coupe de France, c'est la première fois qu'on reçoit, donc encore mieux. Donc on sera sans doute un peu plus à l'aise qu'à l'extérieur, où c'est jamais simple d'aller jouer à l'extérieur, notamment en Coupe de France. Donc je crois que c'est un plaisir.
Et Marseille-Consola, vous venez de le dire, évolue en national. Ils sont 13e à seulement 4 points de la lanterne rouge Sedan, qui va très mal en ce moment. Que faut-il faire pour battre ces Marseillais ?
Oula, Marseille-Consola, c'est un club qui a raté la montée d'un point, je crois, la saison dernière, pas très loin, qui était sur le podium. Ça va être assez difficile, avec aussi quelques armes offensives, très solides derrière, donc ça va être assez compliqué, d'autant plus que nous, on a un peu quelques soucis pour le moment sur le plan offensif. Donc à suivre, mais bon, c'est peut-être pour nous et pour nos attaquants un petit déclic de se retrouver à jouer un peu sur l'enthousiasme, peut-être faire preuve d'efficacité. Si on n'a pas beaucoup de situations devant le but, il va falloir sans doute être hyper efficace et faire du 80 voire du 100% sur les quelques occasions qu'on aura, quoi.
Alors, hasard du calendrier, cette rencontre va se dérouler à une date très particulière, je le rappelle, le 13 novembre à 14h30. Est-ce que le contexte autour de cette date, je ne vous fais pas de dessin, va changer votre à-propos à vos joueurs ?
Non, sans plus. Sans plus. Peut-être que il va y avoir peut-être cet aspect un peu référence, mais sans plus, je pense que les joueurs là se sentent prêts, même si notre priorité reste quand même le prochain match de championnat. Ce que je veux surtout pas enlever aux joueurs, c'est l'enthousiasme de jouer ce match et puis le plaisir qu'ils trouveront à le jouer, quoi.
Alors, on va tourner la page des seniors, il est 20h27, on va un petit peu parler des jeunes. Aujourd'hui, où en sont les équipes de jeunes à Côte Chaude?
Alors, Côte Chaude, c'est un club qui a connu des jeunes en championnat régionaux. Aujourd'hui, les jeunes évoluent au plus haut niveau départemental. On a quand même cet objectif à Côte Chaude et à cœur de se retrouver au niveau régional assez rapidement. J'espère que ça va fonctionner. On n'était pas loin la saison dernière en U19, ce qui serait intéressant pour un club où les seniors évoluent en honneur. Je signale quand même qu'on reste un club de quartier de Saint-Étienne, ce qui n'est pas toujours simple, où on fonctionne pas mal avec les enfants du quartier, où on ne cherche pas forcément à aller chercher des joueurs à l'extérieur pour pouvoir justement toucher ce niveau. Donc je pense que le club de Côte Chaude là est sur une belle dynamique de construction. En tout cas, les seniors font en sorte que de donner envie un petit peu à ces jeunes de toucher les niveaux régionaux.
Est-ce que le club, j'ai été un petit peu interpellé, il n'y a pas d'équipe féminine à Côte Chaude?
Non, pas d'équipe féminine.
Ouais. Est-ce que c'est en projet ou est-ce que le club ne le souhaite pas?
Non, c'est pas un souhait ni un non-souhait, mais pour le moment, je trouve qu'on a beaucoup à faire avec les équipes jeunes. Pourquoi pas dans l'avenir, ce serait pas inintéressant.
Et pendant que le club de Côte Chaude fait honneur au football ligérien sur le plan amateur, la AS Saint-Etienne va tenter d'assurer sa place européenne en Europa League face à Kabala. Ce sera jeudi en Azerbaïdjan. Il faudra bien le négocier, ce déplacement. On va en parler tout de suite. Suspension terminée pour Stéphane Ruffier, suspension terminée pour Christophe Galtier également. Les Verts reviennent sur la scène européenne jeudi avec toute leur force en présence. Ils en auront besoin de ces forces-là pour ce déplacement en Azerbaïdjan pour affronter Kabala. Un déplacement en Azerbaïdjan, les Verts connaissent très bien ce que ça fait et c'est pas facile du tout à négocier. Chérif Bounoir.
Pas simple, on a vu le résultat là. Match aller, il y a eu 1-0, c'est ça?
1-0 avec un but contre son camp de Ricardinho à la 72e.
Ouais. Donc c'est pas simple, quoi. Et puis tous les matchs d'Europa League sont vraiment pas simples à jouer. Après, je pense que la Saint-Etienne la négocie bien. 1-0 ou 4-0, je crois que quelque part ça fait un bon résultat. Faut rester confiant, je pense.
Et même si les Stéphanois ont tenu le coup jusqu'à la 95e minute contre Monaco, était-il réellement à 100%, on peut se poser la question, ne pensait-il pas déjà à cette rencontre si importante?
C'est jamais simple parce que les joueurs pensent toujours à certaines rencontres, ne sont pas forcément à 100% dans un match tout le temps. Est-ce que ça va être le cas ce coup-ci? J'espère que non. Je pense que Galtier va trouver les bons mots et le bon discours pour pouvoir justement fédérer tout le monde et puis remettre tout le monde sur l'objectif principal, quoi.
Aujourd'hui, l'ASS est troisième de sa poule, mais égalité avec certains de ses adversaires directs. En cas de victoire, elle peut provoquer quand même un petit séisme au sein de la poule C. Gagner à Kabala, est-ce que c'est impératif avant la réception de Mayence?
Oui, je pense que c'est un objectif là maintenant. Là, ça les reclasse et par contre, sans doute la dynamique changera et puis nous, ça nous fait toujours plaisir là de voir la Saint-Etienne en Coupe d'Europe et l'émulsion qu'il y a derrière. Je pense que c'est quelque chose de super intéressant pour la ville Et puis, je pense pas que les joueurs négligeront et donneront de l'importance. En tout cas, une victoire serait plus qu'honorable et plus qu'intéressante.
Alors, on sait que Kabala n'est pas une équipe forcément très puissante au niveau européen, même s'ils ont éliminé Lille cette saison. Mais l'Europa League, c'est une compétition à part et les Verts auront tout intérêt à rester sur leur garde jeudi car l'équipe azérie a écrasé Neftchi en championnat 4-1 et surtout, ils ont gagné sans leur meilleur buteur, Bagayi Dabo, qui est probablement forfait d'ailleurs pour le match de jeudi. Gagner sans leur meilleur buteur en championnat, est-ce que ça peut leur donner des idées pour jeudi?
Bah oui. Personnellement, oui, si en plus il n'est pas là sur ce match, c'est quand même intéressant pour la Saint-Etienne. Ça fait sans doute un souci en moins à gérer, des problèmes en moins à gérer. Peut-être qu'ils y ont mis, donc je n'ai pas trop connaissance du match, mais peut-être qu'ils y ont mis beaucoup de volonté. Donc il va falloir répondre sans doute à d'autres problématique. Mais je reste quand même confiant parce que je pense que ça leur tient à cœur quand même ce championnat d'Europe.
Et au match aller il y a 10 jours, les coéquipiers de Nolan Roux ont montré certaines choses qu'ils n'avaient pas faites durant les deux premiers mois, des échanges dans le jeu, des passes courtes, dans la verticalité. Vont-ils enfin se lâcher?
Oh, c'est bien. C'est bien parce que en même temps, le club de Kabala leur a laissé pas mal d'espace pour pouvoir évoluer. Donc, s'ils utilisent justement tous ces espaces pour pouvoir créer des échanges, créer un nouveau relationnel sur le terrain, ça peut être intéressant si on leur laisse encore autant d'espace.
Mais est-ce qu'ils peuvent se lâcher concrètement, les Verts en Azerbaïdjan? Est-ce que le poids du voyage ne risque pas, en plus avec le décalage horaire, de les tuer, entre guillemets?
Je pense que ça sera très bien géré. Donc, je pense pas que le fait du voyage puisse gêner en quoi que ce soit. Se lâcher, oui, c'est peut-être le moment, quoi. S'il y a des espaces, justement, et qu'on leur laisse un peu de place pour s'exprimer, ils devraient justement se lâcher et puis se créer des situations de finition, peut-être pouvoir justement, comme on parlait tout à l'heure, là, des matchs où on les voit moins, où ils sont un peu plus isolés, qu'il faut un peu plus défendre. Là peut-être que c'est le moment un peu de passer au-delà de toutes les frustrations qu'il y a sur certains matchs et justement être à 100% et puis se lâcher, quoi.
Alors Christophe Galtier doit-il révolutionner son système de jeu, passer par exemple à un 4-4-2, un système un peu ancien mais qui revient un peu au goût du joueur en ce moment?
Je ne porterai pas de jugement sur ses choix. Après, sur le système, c'est un système aussi, il a un système aussi qui permet peut-être d'utiliser plus la largeur du terrain, qui laisse plus de liberté aux défenseurs latéraux. Après, le fait de rajouter peut-être un attaquant supplémentaire sur le plan offensif, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ça peut être intéressant? Après, se dire révolutionner d'un match à un autre, ça demande de l'adaptation, un temps où il va falloir que tout s'équilibre. Est-ce que c'est peut-être aussi efficace qu'on le voudrait? J'en suis pas persuadé. Rester sur un système que les joueurs connaissent, où ils ont des repères, c'est peut-être sans doute plus intéressant.
Un mot sur l'ambiance qu'il y aura à Kabala. On sait que contre Monaco, il y a eu une ambiance exceptionnelle et il faut le souligner à Geoffroy Guichard avec plus de 30 000 spectateurs. Là, à la Baxel Arena de Bakou, il y aura seulement 11 000 spectateurs dans les tribunes. Ça va être un petit choc pour les Verts.
Ça va leur faire drôle. C'est pas le même bruit, c'est pas la même ambiance. Après, je pense que les joueurs connaissent un petit peu ce type d'ambiance et ont déjà vécu de telles situations. Il y a des joueurs qui ont assez d'expérience et qui ont déjà vécu ça, pour que ça ne puisse en tout cas ne pas les déranger, quoi.
Et ça va se gérer comment?
Peut-être que justement ils pourront plus s'entendre sur le terrain, mieux se parler, mieux se comprendre. Donc il y aura peut-être du bruit en moins et peut-être enfin, en tout cas, je pense pas que ça puisse les déranger en quoi que ce soit, quoi. Ça permet la concentration, ça permet beaucoup d'échanges. sur le terrain. Donc, pas un problème, c'est peut-être aussi un atout.
Et une question que j'avais posée il y a quelques jours dans cette émission, par rapport au premier match contre Kabbalah en Europa League, une défaite en Azerbaïdjan serait-elle synonyme déjà d'élimination, mais surtout d'humiliation pour l'AS Saint-Etienne ?
Peut-être pas à ce point. Après, je pense que ça reste qu'un match. Humiliation, non. Mais pour eux, je pense que quelque part, une défaite, ça serait mal vivre. Donc ça les mettrait sans doute dans une dynamique peu intéressante pour la suite, parce que les matchs sont liés entre eux. Il y a le championnat qui revient derrière, donc il va falloir gérer ça aussi. Une défaite, ça se gère. C'est peut-être pas simple pour eux, quoi, mais mentalement, en tout cas sur le plan mental. Derrière, une humiliation, je pense pas.
Le voisin lyonnais a connu de son côté non pas des humiliations mais des désillusions cette saison. Ce week-end, les hommes de Bruno Genesio ont profité d'un déplacement à Toulouse pour revoir un peu la vie en rose. Un doublé de Lacazette à Toulouse, un 100e but sous le maillot lyonnais pour l'international français. Et voilà que la mécanique semble repartie à l'Olympique lyonnais. C'est la fin d'une série infernale de 3 défaites en 4 rencontres. Est-ce que grâce à Lacazette, Chérif Bounoir, la disette est terminée à Lyon ?
Ah, mais il est génial ce joueur. Il est capable de marquer à n'importe quel moment. Il est capable d'être hyper efficace, même s'il a ses périodes. Mais il va falloir compter sur l'OL pour les retrouver encore en haut du classement.
Alexandre Lacazette a inscrit non pas seulement son 100e but, mais son 100e et son 101e but avec son club formateur. Est-ce que l'épisode où il s'est blessé à la fin de l'été ou au début de l'automne, c'est selon, est-ce que c'est derrière lui maintenant ? Est-ce que sa saison est enfin lancée ?
Oh, je pense que oui, là. C'est bien reparti. En tout cas, il a fait preuve d'efficacité et puis de qualité comme on aime bien chez Lacazette. Très intéressant.
Alors, à Toulouse, les Lyonnais ont évolué en 4-4-2. Le duo Fekir-Lacazette a manifestement conduit les Lyonnais vers la victoire. Est-ce que ce duo est plus efficace dans cette configuration ? Et est-ce qu'on peut dire maintenant que Bruno Genesio doit dire adieu à son 3-5-2 ?
Tout va dépendre des matchs qu'il va jouer. Après, je pense que s'il veut apporter à chaque fois une touche offensive et puis de qualité devant le but, ce serait dommage de s'en passer, quoi.
En tout cas, Lacazette et Fekir, ils sont complémentaires, c'est une évidence.
Oh, c'est clair, ouais. Il y a une super entente, on sent que cette doublette fonctionne, ils sont jamais très très loin l'un de l'autre, ils se trouvent très facilement sur le terrain, ils ont un lien très peu en fermant les yeux, donc c'est quand même intéressant.
Après la défaite contre Guingamp au Parc OL 3-1 la semaine dernière, Bruno Genesio a été placé sous le feu des critiques. Il y a quelques rumeurs même qui ont circulé sur un éventuel remplacement. Le 3-5-2, tactiquement parlant, n'était plus à la grande mode. Mercredi dernier, nous sommes allés à la rencontre de Corentin Tolisso au centre d'entraînement de l'OL à Décines. Il s'est confié sur les choix de son entraîneur. Écoutez le numéro 8 de l'OL.
3 défaites en 4 matchs en Ligue 1, 2 revers de rang en C1 contre la Juve et le FC Séville. C'est quoi le problème ?
Je sais pas. Si on connaissait le problème, on le réglerait. Voilà, ça passerait. Maintenant, on sait juste qu'il y a un problème parce que perdre autant de matchs en si peu de rencontres, c'est pas normal. Mais comme j'ai dit précédemment, on réglera le problème que si on travaille et qu'on travaille plus que les adversaires et c'est que comme ça que ça reviendra.
Tactiquement, j'ai envie de vous poser la question. Votre entraîneur Bruno Genesio semble un petit peu patiné. Il a essayé des organisations différentes, il a essayé de se stabiliser dans un 3-5-2, mais ça semble tourner en rond cette affaire.
Après, il avait ses raisons et on adhérait complètement à ses idées. Quand on a commencé à jouer en 3-5-2, tout le monde adhérait. Quand on est passé à 4 défenseurs ce week-end, tout le monde adhérait. On est tous adhérents du système de jeu, donc c'est pas de sa faute à lui, loin de là.
C'est de la faute à qui ?
C'est la faute à personne.
C'est de la faute à personne. Langue de bois bien huilée de la part du natif de Tarare, Corentin Tolisso. Chérif Bounoir, on a bien vu qu'il y avait des problèmes ces derniers mois à l'Olympique Lyonnais, mine de rien. Alors c'est quoi le problème ? Je vous pose la question à vous.
Vous voulez une réponse de coach ou une réponse de joueur langue de bois ? Bah, une réponse de coach, Après, c'est bien que le coach s'adapte, essaye de trouver des solutions en changeant plus ou moins le système. Quand on change un système, donc on bouscule un petit peu les habitudes des joueurs. À partir de là, bah, il faut un temps d'adaptation, on attend de voir si ça fonctionne. Et puis derrière, si ça fonctionne pas, bah, il faut se réadapter. Si ça fonctionne, il faut se demander pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça risque de ne plus fonctionner, parce qu'il est possible aussi que ça ne fonctionne plus. Mais bon, je pense que le coach s'est super bien adapté. Les joueurs, après, bon, comme le dit son joueur, à un moment, bah, c'est qu'ils ont adhéré de toute façon. Ils ont mis en application, c'est pas un marché, pourvu que ça continue, quoi. C'est que le temps d'adaptation ben, se fait et c'est fait, donc on va sans doute continuer.
Alors, on parlait des rumeurs de départ qui ont circulé sur le nom de Bruno Genesio, c'était des rumeurs pas très très sympathiques, la victoire à Toulouse est venue totalement les éclipser. Comme l'indiquent nos confrères de l'équipe, est-ce que c'est un succès vital pour l'OL, ce succès en Haute-Garonne?
On va dire que c'est un succès vital pour le club, voilà. Après, pour l'entraîneur bien sûr, parce que c'est difficile de travailler sous des critiques, c'est plus simple de travailler quand les choses fonctionnent, on est plus serein. Donc si ça a permis au club de l'OL et à leur coach d'être plus serein sur la façon de travailler et plus serein sur les séances, je pense que c'est très positif, quoi.
Alors sur le terrain, il y a des problèmes et en coulisses aussi. Ouais, c'est un peu un thriller, hein. En plus c'est de circonstance ce petit jingle parce que c'est Halloween, on le rappelle ce soir. Cette saison, il y a un nom qui fait grand bruit à Lyon, c'est celui de l'entraîneur, l'ancien entraîneur et manager du club Gérard Houllier. Il est revenu comme conseiller extérieur du président Aulas. De loin, on a clairement le ressenti qu'il fait doublon. L'éternel bras droit d'Aulas, Bernard Lacombe, ce dysfonctionnement interne est-il ce fameux problème qu'on peut peut-être identifier et que tout le monde semble en réalité nier à l'Olympique Lyonnais?
J'espère que ça déstabilise personne, que ça permet à tout le monde justement de travailler tranquillement. Si c'est dans un objectif de renfort et puis de multiplier les échanges entre les personnes du staff, ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Ensuite, si c'est destiné un petit peu à de la surveillance du coach, mettre tout le monde dans de mauvaises conditions, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Après, on connaît Aulas, hein, c'est peut-être sa façon de déléguer, de multiplier un peu les gens autour de lui et puis de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, c'est une adaptation, une recherche d'adaptation, ça peut être intéressant.
Il y a eu un couac. Oui. Comment?
Tout dépend de la position d'Houllier et puis de ses qualités de management.
Alors, il y a eu un couac dans le recrutement d'un attaquant cet été. C'était un peu le chantier prioritaire du recrutement lyonnais. On sait que Lyon a longtemps lorgné sur Mario Balotelli qui finalement a débarqué à Nice. Puis il y a eu l'affaire Emmanuel Adebayor, le fameux couac estival. Rien n'a jamais abouti. Et puis finalement, c'est le jeune Castelroussin de 19 ans, Jean-Philippe Mateta, qui a signé. Inconnu au bataillon pour ceux qui suivent le football de loin, peut-être pour ceux qui suivent la Ligue 2 un petit peu plus. On marche sur la tête quand même à l'Olympique Lyonnais. On ne sait pas trop où donner de la tête quand on essaye de comprendre la politique sportive du club.
Ce qui est un petit peu choquant, c'est qu'ils n'ont pas ça déjà dans leur centre de formation, qui est quand même un super centre de formation, il faut le reconnaître, et quand même qui sort pas mal de joueurs chaque année. Donc après, c'est sans doute un choix à long terme pour combler peut-être des absences de certains attaquants à certains moments. Mais bon, je pense qu'il devait avoir sans doute ça ou un joueur qui se profilent dans leur centre de formation.
Ça paraît beaucoup plus clair à Marseille aujourd'hui, c'est incroyable de le dire comme ça, mais avec l'arrivée de Rudy Garcia et d'Andoni Subisaretta dans les projets sportifs du club, c'est quand même beaucoup plus clair depuis quelques jours. L'OL est-il en train de piquer sa première vraie crise institutionnelle?
J'espère que non. Ce serait dommage pour le championnat français, parce que c'est bien aussi d'avoir pour l'AS Saint-Etienne l'OL à côté, qui fait que l'AS Saint-Etienne avance, et avance encore plus vite qu'on le pensait, donc très bien. Si, comme vous dites, crise institutionnelle, ce serait dommage, quoi. L'OM fonctionne, changement, peut-être ce qu'on appelle un peu le choc, et puis ça fonctionne pour le moment, donc intéressant aussi.
Ça fonctionne, mais il y a des bémols, parce que quand on voit les mésententes entre Gérard Houllier et Bernard Lacombe, on peut se poser sérieusement des questions.
Là, je crois qu'après, ça va être à Aulas de faire un choix. Là, c'est à lui de faire un choix dans son équipe technique.
Lacombe est-il poussé vers la sortie?
Ouais, dommage. Il a fait du bon boulot jusqu'à présent, non?
Il a fait du bon boulot, mais avec l'arrivée de Gérard Houllier, ça veut peut-être dire quelque chose.
Ça fait deux hommes de tête, donc ça ne va pas être simple à gérer. Après, tout dépend des raisons pour lesquelles il a fait venir Houllier dans le staff, quoi.
Comment Bruno Genesio, lui, de son côté, peut-il survivre à de telles secousses?
Il me met à sa place, le pauvre. C'est pas simple. Mais bon, je pense que c'est quelqu'un qui a aussi de l'expérience, qui ça l'empêchera pas de continuer à travailler avec ses joueurs. Si en plus, tous les joueurs sont de son côté, je pense qu'il aura pas beaucoup de revers, quoi.
Alors, pour conclure cette rubrique, cette Actu Ligue 1, Chérif Bounoir, je vais vous parler d'un fait qui, malheureusement, s'est produit au cours de la journée. Il y a des rumeurs, d'autres rumeurs, malheureusement, qui ont circulé sur Internet concernant Mathieu Valbuena. Des rumeurs concernant un éventuel décès du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais et qui sont totalement fausses. Des rumeurs totalement stupides, honteuses, scandaleuses. Un mot là-dessus?
Ça craint, quoi. On avait dit qu'il était blessé, mais voilà, ce qui semblait quand même logique.
Il est blessé pour 3 semaines à cause d'un problème à la clavicule.
Jusqu'à en arriver à dire que la personne est décédée, je crois que c'est quand même pas très sympa, quand même. Quelle que soit la personne, quoi. Après, que ce soit un joueur de foot ou une personne, je pense qu'on n'aimerait pas trop qu'on nous fasse ça. Et je crois que c'est quand même désagréable, quoi. Enfin, pire, je sais pas, je peux pas vous dire le mot. À l'antenne, ça serait pas sympa.
C'est incroyable. Je pense, en fait, on a touché le fond de la bêtise de l'observateur du football. Aime créer des vagues sur les réseaux sociaux pour emmerder le monde. Mathieu Valbuena, on sait qu'il est dans un pétrin pas possible en ce moment à cause d'une affaire cruelle qui lui est tombée dessus. On va pas rentrer dans le détail, on a tous compris. En plus, ça lui pèse sur les épaules, sur la tête. Il est très mauvais depuis quelques mois, Mathieu Valbuena, depuis son retour en France. Et là, il se prend des rumeurs de mort sur la gueule. Là, on a touché le fond, quoi.
Oui, on a vraiment touché le fond. Mais je pense que c'est un peu le reflet de la société aujourd'hui, quoi. C'est essayer d'enfoncer le plus possible quelqu'un, c'est vraiment pas très sympa. C'est dégradant. Mais en même temps, je pense que je crois qu'il a le mental pour s'en sortir et puis pour passer au-delà. Et j'espère qu'une seule chose, c'est que ça le renforcera et que ça fera taire un petit peu tous ces gens-là, tous les médisants.
Il est 20h53 sur RVR et on va changer un petit peu les idées. Comme Marina D'Amico, le FC Metz aimerait s'envoler à travers les nuages, mais pour l'heure, les Lorrains pointent à la 13e place du classement et restent sur 4 défaites consécutives, dont 2 claques contre Monaco et Nice, 7-0 et 4 buts à 2. Face à Saint-Etienne, on ose imaginer les Messins encaisser plus de 4 buts, surtout quand on voit les difficultés offensives de l'AS Saint-Etienne. Cela dit, bon, rien n'est écrit d'avance dans le football, on le sait bien. Metz possède l'une des pires défenses de Ligue 1. Comment les Verts peuvent exploiter ces failles?
C'est peut-être le moment, justement, comme on disait tout à l'heure, à l'attaque de s'exprimer, et puis peut-être prendre des options hyper offensives pour pouvoir justement libérer et puis peut-être apporter les 3 points peut être intéressant.
Alors, des options hyper offensives. Quand on voit, par exemple, que Galtier met souvent un milieu à 3, on ne peut pas se dire que c'est vraiment très offensif. C'est quoi un système offensif pour vous ?
Tout dépend sur quelle zone du terrain on veut la mettre. Moi, je trouve qu'il utilise bien, on est quelquefois à 3 axiaux, il utilise bien les largeurs du terrain avec ses latéraux. Ça vient pas mal des couloirs. Après, ça peut être, on peut baser ça aussi sur l'intérieur du terrain avec deux gros attaquants et deux vrais attaquants, deux finisseurs. Tout va dépendre de l'observation qu'ils ont eue du FC Metz et puis les difficultés qu'aura le FC Metz au moment de la rencontre.
Quand on voit par exemple l'apport de CV et Vertu au milieu de terrain, bon, Vertu est peut-être dans un registre un peu plus défensif que CV, mais est-ce que CV par exemple doit jouer carrément 10?
Pas forcément. Même un milieu à 3 peut être très offensif. Tout dépend des déplacements qu'ils effectuent. S'ils effectuent des déplacements et un placement plutôt en retrait, ou s'ils ont des courses qui sont vers l'avant à certains moments, ça peut être très intéressant. Après, même un seul attaquant peut suffire si les milieux de terrain ont les courses qu'il faut pour créer les déséquilibres et puis s'ils sont servis au bon moment, peuvent être des atouts intéressants. Un joueur qui parle de derrière peut être un joueur très offensif.
La dernière victoire messine à domicile à Saint-Symphorien face au Vert remonte à la 28e journée de la saison 2000-2001. Ça fait un petit peu une éternité. C'était le 3 mars 2001. Le FC Metz s'était alors imposé 3-0 grâce à Spertero et un doublé de Jonathan Gégère. À l'époque, les Verts étaient empêtrés dans les faux passeports.
Quelle drôle d'histoire. Ça fait un moment, ça.
Ouais. Mais voilà. Metz aussi, d'ailleurs, avait eu des problèmes à cette époque.
Mais Metz a vécu des déboires. Donc, ils avaient navigué un petit peu avec la Ligue 1, la Ligue 2, depuis, c'est ça, non ?
Oui, c'est ça. Ils ont toujours eu des soucis, donc des soucis de constance.
Ouais. Donc, c'est un club qui a été instable un peu sur les derniers temps, là.
Aujourd'hui, la SS n'est plus du tout dans le même contexte. La situation financière est pérenne. Les joueurs sont quand même d'un autre calibre que ceux qu'il y avait à l'époque, même s'il ne faut pas faire injure aux Alex Diaz, Julien Sablé et autres Jean-Guy Wallem, qui étaient quand même de très bons piliers, de très bons joueurs. Mais mine de rien, quand on voit les joueurs qui arrivent à débarquer aujourd'hui à l'AS Saint-Etienne, il y a une évolution, clairement.
Il y a une super belle évolution. On a, à Saint-Etienne, on a gagné en stabilité, voilà, avec un coach qui fait du bon boulot, qui a mis un petit peu cette stabilité, bien entouré bien sûr avec les dirigeants du club qui ont fait en sorte que le club reste stable. Sur le plan économique, j'ai pas forcément les arguments pour en parler, mais on voit bien quand même que ça fonctionne. Les joueurs, on a de plus en plus de joueurs de devoir qui sans doute sont très sérieux, qui adhèrent beaucoup à la philosophie du club. Je trouve qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour changer la dynamique du club par rapport à celle qu'il y avait il y a quelques années, quoi.
Une fois de plus, dans ce match, il y aura un match dans les tribunes, on va dire, et il sera à coup sûr remporté par les supporters messins, puisqu'il n'y aura pas de supporters stéphanois au stade Saint-Symphorien dimanche prochain à 17h. Les supporters seront interdits de déplacement. Un scandale de plus.
Et un de plus, ouais. Mais dommage. C'est ce qui est dommage, quoi, parce que quelque part, si on veut vraiment supporter mon équipe, on fait en sorte de pouvoir la supporter tout le temps, donc on fait en sorte d'être présent sur l'ensemble des matchs. Après, je pourrais pas vous dire s'est passé parce que je suis pas trop au courant, mais c'est vraiment dommage pour les joueurs. Je pense qu'ils seraient super heureux d'avoir leurs supporters au bord du terrain.
Et ce match face à Metz, est-ce que c'est un match piège pour l'AS Saint-Etienne ?
Si le staff et les joueurs n'ont rien négligé, il n'y a pas de raison qu'il soit piège. Je pense pas.
Encore un petit mot, est-ce que les Verts peuvent vraiment enchaîner après ces matchs où finalement ils arrivent à ne plus perdre, à être un petit peu plus séduisants dans le jeu ?
Oui, je pense que là, ils ont leur dynamique, leur capital confiance. Donc, je les vois bien assurer encore quelques matchs.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci, Chérif Bounouar, d'avoir participé à cette mi-temps verte. À très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour la mi-temps. En attendant, c'est l'heure du jazz sur RVR. À mercredi pour On se réveille en musique à 7h en direct. Bonne fête de la Toussaint. Ciao, les amis. À bientôt. Salut, Chérif.
Au revoir.